Mais Mimi, Mimi, tu l'as mis où?
Ben, de quoi donc?
Le poste. C'est l'heure.
Ben, l'heure de quoi?
L'émission, la JT du local. Sûr qu'elle dépasse tout.
La poésie classique a fait de la nature un endroit impénétrable. La peinture, un berceau prodigieux et le cinéma, un terrain de jeu inépuisable. C'est vrai, quand la frénésie du monde d'aujourd'hui est pour nous trop forte, c'est vers cette nature que tendent nos évasions. On le dit plutôt ainsi, on a besoin de couper, de changer d'air. J'y pense parce que quand il est question de la préserver, c'est soudain un peu moins sexy dans nos bouches. Hélas, c'est pas tellement glamour, de nos jours, l'écologie, c'est engagé, militant, politique. Mais en fait, qu'est-ce qui se raconte d'une société qui peine à prioriser entre le rentable immédiat et l'indispensable vivant? C'est important d'y penser, mais aussi d'en parler, parce qu'en Mayenne, il y a des gens, des associations qui agissent et proposent de quoi prendre soin de notre territoire. Des initiatives positives, et c'est notamment le cas de l'association Vents Citoyens. Evelyne Coulon, la coprésidente, et Michel Perrier, administrateur de l'association, sont avec moi aujourd'hui. Bonjour.
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 Nous allons parler de ce projet de la ferme éolienne à Saint-Hilaire-du-Maine que vous avez porté et revenir ensemble sur l'engagement que porte l'association. Et comme notre émission Voyage dans le département, nous sommes allés découvrir l'exposition exceptionnelle Stolen Memory à Mayenne en face du pôle culturel Le Grand Nord. Une exposition sur la restitution d'objets des déportés du nazisme. Et c'est Élodie Roland, coordinatrice de la Vigie, mémorial des déportés de la Mayenne, qui nous en parle. Nous terminerons cette émission avec la chronique de Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir, qui fait son retour pour notre plus grand plaisir cette année dans la quotidienne. Mais avant cela, un petit point sur les actualités locales. On commence par l'invitation du chorégraphe David Roland, car je ne sais pas si vous connaissez ce nouveau mouvement artistique d'art total né à Château-Gontier pendant les années 2020. Bon, en fait, plus précisément en 2023. Il s'agit d'un fourre-tout irrespectueux et extravagant qui invite tout artiste amateur, danseur, musicien, comédien, poète maudit ou non, à créer en groupe une forme dite de spectacle vivant, sans aucune règle préétablie. Parce que nous sommes toutes et tous des artistes, tout le monde est le bienvenu. En effet, David Roland tentera de guider les membres du dafluxoulisme dans leur création en s'inspirant des courants artistiques qui forment le nom de cet élan hors du commun. Prenez vos agendas car la réunion de présentation et d'inscription au projet se déroule le mardi 19 septembre de 19h à 19h45 dans la salle de réception au carré à Château-Gontier. La création du spectacle s'étendra d'octobre à mars sur des temps de week-end. Manque d'enseignement dans les Pays de la Loire, le syndicat SNES-FSU alerte sur cette rentrée scolaire et son manque de professeurs. D'après les remontées du terrain, le syndicat annonce que 52% des établissements de l'académie manquent au moins d'un enseignant. Combler les départs à la retraite devient difficile et l'augmentation des démissions d'enseignants est préoccupante, nous informe le Ouest-France. Le ministre de l'Éducation nationale a pourtant, en ce début d'année, fait distribuer dans chaque établissement scolaire un flyer annonçant une nette amélioration des taux d'encadrement ces dernières années et en y détaillant d'ailleurs également le dispositif du pacte enseignant. Ce pacte propose aux enseignants d'effectuer des missions complémentaires au sein des écoles, collèges et lycées sur base du volontariat contre une rémunération supplémentaire. Le pacte enseignant ne semble pas séduire les enseignants qui y trouvent un écho au travail travailler plus pour gagner plus. Et qui leur rappelle que les professeurs en France sont parmi les moins payés d'Europe. Ces derniers réclament une réelle revalorisation de la profession. La Mayenne en alerte sécheresse, de nouvelles restrictions d'eau. La préfecture prend de nouvelles mesures ce lundi 11 septembre. Le niveau des bassins hydrographiques est toujours insuffisant. Les piscines privées ne peuvent être remplies sauf remises à niveau. Le lavage des véhicules est interdit dans les stations qui ne sont pas équipées de matériel haute pression. Le lavage des voitures à domicile est, lui, interdit en toutes circonstances, quel que soit le secteur, rappelle la préfecture. L'arrosage des espaces verts, potagers, terrains de foot, pistes de chevaux et champs de course est interdit entre 8h et 20h. Pour terminer ce point d'actualité, l'actualité, l'unité de méthanisation de la société CS Biogaz SAS a fait son inauguration vendredi 8 septembre à Congrié. Le projet réunit une dizaine d'agriculteurs associés, la commune de Congrié, la société Énergie Mayenne, Carden Biogaz ainsi que Engie Bios, et a été soutenu par l'ADEME et le conseil départemental de la Mayenne. Depuis février, l'unité de méthanisation produit localement du gaz vert à partir de fumier transformé en biométhane et injecté dans le réseau GRDF. Ce projet propose un bénéfice environnemental grâce à un processus biologique naturel et local pour répondre à la transition écologique et énergétique en suivant les objectifs européens et français. Nous avons avec nous, comme je vous le disais tout à l'heure, l'association Vent Citoyen et donc avec nous Evelyne Coulon et Michel Perrier. Merci de m'avoir rejoint dans les studios. Nous allons revenir donc sur un peu l'origine de cette association Vent Citoyen. Elle est née, il me semble, en octobre 2014. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce projet ?
Au tout départ, c'était la société Aboïd qui souhaitait créer un parc éolien sur la commune de Saint-Hilaire-du-Maine. Et donc, en octobre 2012, le conseil municipal de Saint-Hilaire-du-Maine a donné son accord, mais souhaitait que ce parc soit citoyen. Donc il a fallu mobiliser des citoyens, on a créé une association, l'association Vent Citoyen. Elle a été créée en 2014, elle regroupait une cinquantaine de personnes. Petit à petit, elle a grandi et actuellement nous avons environ 100 adhérents chaque année.
Oui, ça a bien pris en fait.
Voilà, donc le but c'était de trouver des citoyens intéressés qui souhaitaient investir dans ce parc de Saint-Hilaire-du-Maine.
Une population qui s'engage, qui se fédère autour de ce projet. Ça a donné lieu du coup en octobre 2021 à un projet de ferme éolienne. En tout cas, en octobre 2021 a eu lieu l'inauguration de cette ferme d'éolienne à Saint-Hilaire-du-Maine.
Tout à fait. Donc il faut savoir qu'un parc éolien prend vraiment beaucoup de temps. Il y a des études, enfin des pré-études, des études, des recours possibles, une enquête publique. Donc La construction a débuté début 2020, s'est terminée fin 2020 et donc elle est mise en service officiellement en début 2021. Après, il a fallu trouver du temps pour l'inaugurer, donc ça a été fait qu'en octobre. D'accord. Alors, il faut savoir que le parc éolien de Saint-Hilaire n'est pas 100% citoyen. La D'accord. négociation n'a pas forcément été facile. La Boeing demandait un prix assez élevé. Donc il y a eu, alors moi j'étais pas là à l'époque, mais il y a eu une négociation entre les présidents de l'association, les responsables d'Aboïn, et finalement l'association, enfin les citoyens, sont propriétaires de 25% de ce parc.
Il y a eu des défis particuliers à relever pour mettre en place ce projet.
C'est une bonne expérience, c'est-à-dire qu'on n'était pas développeurs dès le départ. C'est-à-dire que tout ne reposait pas sur des gens qui... tout le temps sont bénévoles, enfin c'est ça la différence aussi. Et donc on a, je dirais, utilisé, enfin le terme n'est pas bon, hein, puisque on a payé notre part, mais la société Aboïn nous a permis de créer ce parc de 4 éoliennes et après négociation, on a décidé d'acheter 25%, et comme le disait Evelyne, 25%, on dira que sur 4 éoliennes, on est propriétaire d'une. C'est plus compliqué que ça, mais bien je trouve bizarre. Que c'est une belle image. C'est la première fois en Mayenne que des citoyens étaient collectivement propriétaires d'une source d'énergie aussi importante. C'est pas la dernière. On a d'autres projets qu'on vous dira ensuite. Et ça nous a... enfin, que ce soit sur les termes financiers, les termes administratifs, les relations avec les politiques d'une manière générale, à chaque fois, on emmagasine, on va dire, de l'expérience et des compétences. Heureusement qu'on est complémentaires dans l'association, puisque il nous faut des banquiers, il nous faut des diplomates, il nous faut des techniciens.
Je voulais revenir sur le fait que nous avons dit qu'il y avait donc 4 éoliennes. Au niveau de la production estimée en électricité, pour les non spécialistes, ça représente à peu près, pour avoir une vision un peu de ce que ça représente en termes de production d'électricité. Est-ce que vous pourriez nous
éclairer ? Alors, on a une production estimée de 25 300 MWh, ce qui correspond en gros à 42% de la consommation annuelle résidentielle de la communauté de communes de Lernay.
D'accord, donc c'est conséquent effectivement. Impressionnant, je ne pensais pas que 4 éoliennes pouvaient produire autant. Ouais.
Bon, sans être trop technicien, les éoliennes qui aujourd'hui sont créées n'ont plus rien à voir avec les éoliennes qu'on a connues dans les premières. à la fois en termes de production et en termes d'éventuelles nuisances. Ça, enfin, si vous voulez, techniquement, ça a beaucoup changé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus les éoliennes créées sur les territoires produisent d'une manière importante.
Donc elles produisent davantage en termes de, d'électricité. Quand vous parliez de nuisances, de quelles nuisances pouvait-il exister auparavant ?
On entend les uns et les autres toujours que, par exemple, les éoliennes font du bruit. C'était, un des arguments qui était utilisé. Aujourd'hui, la loi prévoit 500 mètres entre une éolienne et une habitation. Ce qui est, c'est convenable comme distance. Et les éoliennes en tant que telles ne font quasiment plus de bruit à cette distance. Après, il peut avoir des vents porteurs à un moment, mais tout ce type de nuisance n'existe quasiment plus. Pour les chauves-souris, et les oiseaux, enfin les chauves-souris surtout, à un moment, il y avait, et on est nous attachés à la biodiversité, il pouvait avoir des conséquences sur les populations de chauves-souris. Maintenant, y compris légalement, et c'est aussi une volonté de notre part, il y a des bridages en période de vol.
En période de reproduction de la chauve-souris, je pense.
Oui.
D'accord.
Et c'est des périodes de bridage importantes. C'est-à-dire que à chaque assemblée générale, puisqu'on a une assemblée générale annuelle, on explique aux gens le temps de bridage des éoliennes dû au respect de la biodiversité. Et c'est, en fait, c'est des points qui sont méconnus. Donc, je vous remercie d'avoir posé la question.
Effectivement, de toute façon, le projet à la base porte des valeurs destinées à protéger, à être bienveillant envers la nature et la biodiversité. Donc, en fait, tout va dans ce sens, tout est anticipé, rien n'est fait au hasard. Nous avons parlé tout à l'heure de l'inauguration qui a eu lieu donc le 2 octobre 2021. Mais samedi 9 septembre, il y a une nouvelle inauguration, celle du chemin Les Blancs Moulins.
Il faut savoir que la ferme éolienne de Saint-Hilaire-du-Maine vend son électricité à Enercop, un fournisseur d'énergie verte.
D'accord.
C'est un accord avec Aboin, donc il n'y a pas de souci. Et donc Enercop verse 1 euro supplémentaire par mégawattheure produit à l'association Vent Citoyen pour mener des actions de transition écologique, de réduction de consommation d'énergie, enfin diverses actions. Comme le disait Michel, nous, l'association, nous sommes des bénévoles avec des compétences très variées. Donc nous avons décidé de mandater 3 associations qui sont très connues sur le territoire, à savoir la Ligue de l'Enseignement FAL 53, Mayenne Nature Environnement qui travaille sur la biodiversité et Synergie qui travaille sur l'énergie. Et donc ces 3 associations ont travaillé avec les enfants de l'école de Saint-Hilaire-du-Maine, l'école Jean-Louis Etienne, pour les sensibiliser à tous ces problèmes d'énergie, d'environnement. Et donc les enfants ont créé 3 panneaux pédagogiques avec les animateurs des associations, leurs enseignants. 3 panneaux, un pour la Ligue de l'Enseignement, un pour MNE et un pour Synergie. Et donc ces panneaux étaient installés par la mairie de Saint-Hilaire-du-Maine sur un chemin de randonnée qui rejoint d'autres chemins. Et donc Vent Citoyen, avec les membres des cirques, ont réfléchi sur un nom. Et pour rappeler les éoliennes, on a décidé de l'appeler le chemin des Blancs Moulins.
Donc là, il y a eu un travail avec une école, des élèves. Est-ce que les élèves ont conscience de l'importance de l'énergie verte et de l'énergie locale ? Est-ce que vous avez des échanges avec eux ? Comment ça s'est passé un peu ce projet avec les écoles ?
Alors, c'est un projet qui a duré sur 2 années scolaires avec l'école de Saint-Hilaire-du-Maine. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres entre les animateurs des associations, l'école. Ils se sont déplacés à l'école, ils ont travaillé avec les enfants. Les enfants ont fait des dessins. On leur a parlé des différentes sources d'énergie, comment faire des économies, comment intégrer des éoliennes dans le paysage. Oui, il y a eu un travail vraiment énorme de fait. Et donc, la finalité, ça a été la réalisation de ces 3 superbes panneaux.
Vous sentez les enfants touchés et sensibles à cette cause ?
Bien sûr. Et puis, je pense que les enfants sont quand même moteurs dans l'acceptabilité des énergies renouvelables. Je pense qu'ils en parlent avec leurs parents. Ils sont vraiment moteurs dans cette démarche-là.
C'est une porte d'entrée, en fait, pour les aider à comprendre un peu ce qui se passe, les enjeux actuels. Même les plus jeunes, en fait,
sont concernés
directement.
Ils ont travaillé avec toutes les classes de l'école de Saint-Hilaire, de la maternelle jusqu'au CM2.
C'est à la fois une porte d'entrée et puis c'est la préparation de l'avenir. C'est eux qui seront confrontés aux défis climatiques encore plus que nous aujourd'hui.
J'aimerais maintenant peut-être évoquer avec vous d'autres projets de l'association Vents Citoyens arrivent peut-être.
Alors l'association Vents Citoyens ne va pas s'intéresser simplement aux énergies éoliennes. Hein. On peut aussi s'intéresser aux énergies, au soleil, aux photovoltaïques. Là pour l'instant on travaille sur un parc éolien qu'on espère 100% citoyen sur la communauté de communes de Lerné. Donc toujours sur le même territoire, parce que bon, dans le nord-est mayennais, il y a déjà beaucoup d'éoliennes, il faut quand même aussi mailler le territoire. Et puis il y a cette distance de 500 mètres des habitations, donc c'est pas facile sur le territoire de trouver des zones. Donc là, il y a une zone qui se dévoile sur le territoire de la communauté de communes de Lerné. Les élus sont partants, donc on travaille sur ce projet-là, on en est simplement aux pré-études. Hein. Donc il est vraiment beaucoup trop tôt pour en parler, mais on espère que ça va avancer.
On n'est pas que dans le nord-est mayennais, y compris sur les parcs éoliens. Une des réflexions qu'on a aujourd'hui, c'est de dire l'énergie renouvelable, c'est la priorité, mais elle doit être diffusée sur l'ensemble du territoire. Et il serait un petit peu difficile de croire qu'on ne peut construire des éoliennes que sur les zones rurales, les territoires ruraux, en oubliant là où est consommé le plus l'électricité, c'est-à-dire dans les villes. Donc on a un projet aujourd'hui proche de Laval, sur le territoire de Laval Agglomération. Et on travaille là aussi, et je pense qu'il faut, insister. On est des citoyens, on est une association, mais on travaille aussi avec les collectivités qui souvent sont porteurs dans ce domaine. C'est-à-dire si on arrive à travailler ensemble, une mairie et une association, eh bien c'est vrai que ça avance beaucoup plus rapidement et c'est suivi avec beaucoup plus d'intérêt par les habitants, ce qui leur permet aussi plus facilement ensuite soit d'investir comme tous ceux qui le souhaitent, soit de suivre et en tout cas de comprendre ce qui se passe.
Justement, est-ce que Vents Citoyens a des besoins, a des recherches, des nouvelles compétences ? Peut-être, vous aviez dit juste avant que vous avez déjà un grand nombre d'adhérents.
Alors, on est un nombre assez conséquent d'adhérents. Mm-hmm. Par contre, dans le conseil d'administration, on est quand même assez limité. Donc, c'est vrai qu'à chaque assemblée générale, on essaie de mobiliser des nouvelles personnes avec des nouvelles compétences, de nouveaux horizons. On est quand même ouvert et on a vraiment envie que de plus en plus de monde se mobilise.
Plus on sera nombreux, plus il y aura de projets sur les territoires mayennais.
Tout à fait.
Et moi, la tâche sera lourde pour chacun d'entre nous.
Exactement. Les bras, il n'y en a jamais de trop. Je vous remercie d'avoir été sur notre antenne aujourd'hui.
Alors, on peut préciser que l'association a un site, ventscitoyens53.org, où là, il y a plein d'informations sur notre association, sur le projet, enfin, pas sur le projet, mais sur la réalisation du parc de Saint-Hilaire-du-Maine. Alors, il y a plein d'informations. Une ou deux fois par an, on fait un petit journal qui s'appelle L'éolien, où là, il y a vraiment des choses. Enfin, c'est l'actualité de notre association.
Disponible également sur votre site internet.
Voilà, sur le site internet. Voilà. Donc voilà, je conseille à tous les auditeurs qui s'intéressent par les problèmes de l'énergie de consulter ce site Vents Citoyens 53.
On peut vous contacter également via le site internet.
Tout à fait.
Ouais. Donc le site internet est central.
Pas qu'ils aient peur de nous contacter.
Pour des questions, pour de l'information, pour participer au projet.
Pour investir éventuellement sur le projet dernier, sur le projet de Laval.
Donc je vous remercie d'être venu au studio aujourd'hui. Nous allons du côté de Mayenne maintenant avec Élodie Roland, coordinatrice de la Vigie, le mémorial des déportés de Mayenne. Elle nous présente l'exposition Stolen Memory. Enfin, ça sera juste après Hell Yeah de Korouk.
Looking at you feels pretty great. Feels like the first summer strawberry taste. Looking at you, swear it could bake. Jennifer Aniston want a new face. Oh, is that rude? I didn't mean it. Looking at you makes my brain blah 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 blah. Even on summer go dumb. I hope you look in the mirror like hell yeah, hell yeah. Very first thing in the morning like hell yeah. If you got somebody, that's fine. I hope they're looking at you and go, hell yeah, hell yeah. Could be
probably say something dumb. I hope you look in the mirror like hell yeah, hell yeah. Very first thing in the morning like hell yeah, hell yeah. If you got somebody, that's fine. I hope they looking at you and go hell yeah, hell yeah. Could be jealous, but the truth is,
maintenant à Mayenne devant le centre culturel Le Grand Nord où se trouve l'exposition temporaire Stolen Memory. Elle se présente sous forme d'un conteneur maritime aménagé de couleurs bleues et rouges. Cette exposition exceptionnelle venue d'Arolsen Archive en Allemagne est visible jusqu'au 27 septembre et est accessible à tous. Elle présente des photos d'objets de déportés accompagnées de QR codes qui renvoient vers des vidéos de témoignages en lien avec la restitution de ces objets. Élodie Roland, coordinatrice de la Vigie Mémoriale des Déportés de la Mayenne, nous parle de l'histoire du projet de restitution de Arolsen Archive, de l'histoire des objets archivés et de la force du projet Stolen Memory.
Arolsen Archive, c'est quoi ? C'est le plus grand centre d'archives européen qui regroupe en fait toutes les archives sur les victimes du nazisme. Parmi ces archives-là, ils ont un fond très particulier, en fait, ce sont les objets qui ont été pris, les effets personnels qui ont été pris au moment de l'entrée dans le camp, qui ont été pris ou déportés au moment de leur entrée dans le camp, pour les camps de concentration. Parce que la particularité des centres de mise à mort, des camps d'extermination, hein, puisque, comme beaucoup le savent, hein, au moment des rafles de juifs en France, on leur demandait souvent de prendre une valise avec quelques effets personnels pour plusieurs jours. Donc ces effets-là, en fait, ça servait vraiment au trésor de guerre. C'est-à-dire que souvent, tout était trié, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui vont visiter Auschwitz voient des grands tas de lunettes, des grands tas de tout un tas d'effets personnels. Et ces effets-là, c'est ce qui subsiste. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui a été revendu, qui a servi au trésor de guerre pour le régime nazi. Donc ça, c'est pour les camps d'extermination. Pour les camps de concentration, ceux qui se faisaient arrêter, on ne leur demandait pas forcément de prendre des valises. Hein, parce que je pense aux résistants, par exemple, ils étaient arrêtés avec ce qu'ils avaient sur eux, et puis ils partaient vite dans les prisons, dans les centres d'internement français, et ensuite ils partaient en déportation. Mais ils avaient quand même un minimum sur eux. Ils avaient une alliance, ils avaient une montre, ils avaient des lunettes, ils avaient un portefeuille, voilà. Et tout ça, bien sûr, ça leur était dépouillé à leur entrée dans le camp, et tout ça, en fait, était conservé dans le camp. C'est-à-dire que c'était associé à un numéro matricule, associé à un nom de déporté, et pour certains camps, au moment de la libération, ça n'a pas été détruit. Ça n'a pas été revendu, ça n'a pas été détruit. Ce qui fait que, notamment le camp de Neuengamme, en Allemagne, plus au nord de l'Allemagne, on va dire, le chef du camp demande à un de ses sous-chefs, avant l'évacuation du camp, avant d'évacuer les déportés, parce qu'il voyait que les libérateurs arrivaient, donc comme beaucoup de camps, ils ont fait évacuer les déportés sous contrôle de la SS. Avant d'évacuer ce camp, il demande à son sous-chef de cacher ses effets personnels-là. Quelque part, trouver une cachette. C'est ce qu'il fait, il va plus au nord, il va dans sa ville natale et il trouve un endroit dans un restaurant pour entreposer ces milliers d'objets. Et en fait, quand les libérateurs libèrent toute l'Allemagne, ils découvrent ce restaurant, ils découvrent ce qu'il y a dans le restaurant. Au départ, tout ce qui était de l'ordre de vêtements, de choses assez essentiel aux déportés survivants, ça leur était donné. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements, des paires de lunettes qui ont été données aux survivants parce que dans l'urgence sanitaire, et ils ont redonné. Mais tout ce qui était de l'ordre du bijou, des portefeuilles, tout ça, ça a été récupéré par les alliés. Et ils ont ouvert un centre d'archives, ils ont ouvert un service d'archives, de restitution d'archives et restitution d'objets. Donc ce qu'ils ont pu restituer aux survivants, quand ils l'ont pu au lendemain de la guerre, ils l'ont fait. Mais il y en a pour qui ça n'a jamais pu se faire. Donc ça représente des milliers d'objets qui n'ont pas pu être restitués. Donc il y a vraiment un service d'archives qui a été ouvert en Allemagne plusieurs années après à Arolsen. Et la restitution d'objets, elle a été en vigueur jusque dans les années 70 à peu près. Et dans les années 70, ça commençait à stagner, donc ils ont raté ce service de restitution. Et ça a été remis en service en 2016. Donc le centre d'archives a existé des années 70 à 2016, mais il n'y avait plus cette volonté de restituer. Ou du moins de manière ponctuelle quand c'était les familles qui demandaient. Mais de faire de la recherche, essayer de trouver des descendants, ça a vraiment repris en 2016 et repris fortement en 2016. Où là, il y avait vraiment du personnel dédié pour faire des recherches, retrouver des descendants partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, parce que les objets des déportés, ça représente 30 pays. Et c'est des milliers d'objets, je crois qu'il y a 23 km linéaires d'archives, c'est énorme. Et donc ils ont lancé une campagne en 2016 qui s'appelle Stolen Memory, mémoire volée en français, pour justement faire des recherches, retrouver les descendants. Et donc ils ont, en 2020, souhaité lancer une exposition qui explique ce travail de restitution et d'appeler tout à chacun à participer à cette recherche. Je pense notamment à une restitution qui a eu lieu il y a quelques mois à Paris, où c'est un déporté d'origine algérienne, où la famille découvre en fait plus ou moins la déportation. Parce que pendant plusieurs générations, ils étaient persuadés que le monsieur en question avait refait sa vie dans un autre pays. Voilà, et en fait, là, il y a une découverte même de la déportation. Ils reçoivent une chevalière, ils reçoivent des... Et puis c'est de l'ordre aussi de l'intime qui refait surface dans la famille, c'est vraiment très très fort. Donc au départ c'était en Allemagne, après ça s'est développé dans d'autres pays, hein, Autriche, Pologne, voilà, Belgique. Et en 2022, et surtout 2023, ils ont lancé une campagne en France. Donc l'exposition est actuellement itinérante en France depuis juin 2023. C'est aussi un petit peu une course contre la montre parce que... ils veulent que ça ait du sens aussi dans les familles. Et, ils ont même restitué parfois même à des survivants, à des déportés, qui ont 90 ans, mais qui, voilà, maintenant c'est surtout des descendants, mais c'est arrivé depuis 2016 que ça restitue aux déportés. Je pense à une paire de boucles d'oreilles qui a été redonnée à la dame qui a été déportée, je crois que c'est au camp de Ravensbrück. Donc c'est très très fort, c'est pas qu'un simple objet, ça a toute une symbolique derrière. Donc cette exposition présente ça et présente aussi et surtout tout ce qui n'a pas pu être restitué. Donc il présente, je pense notamment une photo là, d'un monsieur qui s'appelle Jean, parce qu'en fait ce que nous expliquait Teresa Nistersk, c'est qu'il y a encore tout un fond qui n'a pas pu être identifié parce que soit l'objet en question n'a pas été associé à un déporté, associé à un numéro matricule. Parfois, ils ont juste un prénom ou parfois le prénom et le nom. Alors, à l'entrée du déporté, ça n'a pas été bien orthographié. Donc, ça veut dire faire des recherches aussi phonétiques, par pays, c'est énorme. Et puis, et Teresa nous expliquait qu'il y a tout un fond où ils ont les noms, ils ont les prénoms, mais ils n'ont pas les nationalités. Donc, ça veut dire faire un travail de recherche sur tout le monde entier, quasiment, pour dire à quelle nationalité ça appartient. C'est un travail colossal, mais qui a du sens aujourd'hui et qui est vraiment très précieux et qui fait partie de notre histoire et notre mémoire collective.
Je vous rappelle que l'exposition est accessible à tous devant le pôle culturel Le Grand Nord à Mayenne et visible jusqu'au 27 septembre. Je vous invite maintenant à tendre l'oreille parce que l'on écoute maintenant Bay et son titre Grand Bleu avant de retrouver Jean-Michel pour sa chronique de l'UFC Que Choisir.
Le soleil dans le grand bleu. La flamme rayonne jusqu'en Gaspésie. Feu de joie qui brûle toute la nuit. Le sable chaud, la braise t'éclate.
Quel chanteur là faudrait qu'on note, hein, qu'on achète le disque.
Je te l'offrirai si ça te fait plaisir.
Et oui, vous êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Si vous venez de nous rejoindre, vous arrivez à temps pour la chronique de l'UFC Que Choisir de la Mayenne.
La chronique de l'UFC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudeau.
Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, vous êtes le président de l'UFC Que Choisir de la Mayenne. Pour la première chronique de cette nouvelle saison, vous avez souhaité présenter votre association aux auditeurs.
En effet, si les revues et les interventions médiatiques de Que Choisir sont assez bien connues du grand public, beaucoup ignorent que c'est aussi un réseau de proximité de 135 associations locales de défense des consommateurs qui peuvent y trouver informations, conseils et aides pour résoudre un litige avec un professionnel. Et moi, je représente l'association qui intervient en Mayenne.
Quels sont votre rôle et vos moyens ?
Alors, nous sommes très ambitieux. Nous voulons défendre les intérêts des consommateurs, lors de leurs achats, bien sûr, mais aussi en tant qu'acteurs de la santé, de l'environnement, etc. Nos statuts définissent trois missions principales. Informer, conseiller, défendre, avec un objectif, le développement de la consommation responsable. En Mayenne, nous comptons 850 adhérents et l'association est animée par 32 bénévoles. Pour accueillir les consommateurs, nous avons mis en place une permanence téléphonique et les consommateurs mayennais peuvent nous demander un renseignement ou prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers litige dans l'un de nos trois lieux d'accueil physique à Laval, Mayenne et Château-Gontier.
Alors, sur quel sujet peut-on vous interroger ?
Bien, comme le nom de notre association l'indique, notre domaine d'intervention est la consommation, c'est-à-dire les relations entre une personne physique et un professionnel, qui peut être un magasin, un artisan, un opérateur téléphonique, un fournisseur d'énergie, un assureur, etc. Mais pas une administration, ni un litige entre deux professionnels. Notre objectif est de faire appliquer le droit prévu par la loi en les rappelant aux professionnels indélicats et éventuellement en conseillant le consommateur vers une action en justice.
Vous nous avez indiqué que vous informiez les consommateurs ?
Alors, nous animons des réunions, nous publions un bulletin trimestriel et bien sûr, nous participons à des émissions comme celle-ci. Nous rappelons sans cesse quels sont les droits des consommateurs. Nous participons aussi en tant que représentant des consommateurs, aux très nombreuses réunions d'information ou de concertation qui sont organisées par les pouvoirs publics avant ou après les grandes décisions d'aménagement du territoire. C'est le cas notamment sur la gestion de l'eau et pas seulement sur la problématique des bassines. Il faut protéger les points de captage, restaurer la qualité de l'eau des rivières, ce qui nécessite des travaux d'entretien et de restauration.
Ça a l'air vraiment passionnant, nous y reviendrons. Est-ce que vous avez encore des précisions à nous donner ?
Bien, comme toutes les associations, nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour renforcer et renouveler notre équipe. Quels qu'ils soient, vos talents seront les bienvenus, que ce soit pour la communication, les enquêtes, l'animation ou la gestion courante. Nous vous attendons. Prenez contact avec nous au 02 43 67 01 18 ou en nous rendant visite sur notre local de Laval, au 31 rue Oudinot, dans le centre Bura. À bientôt.
L'émission se termine déjà, mais la programmation qui suit va vous plaire, puisqu'on se retrouve ce soir à 19h pour une émission en direct de l'inauguration du Chaînon Manquant au Square de Boston à Laval, suivi de d'éclectique jazz avec le parrain de cette saison, Frédéric Morin, le directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Et bien sûr, d'ici là, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.